Alors, nous avons la dernière fois, donc hier, vu la première partie du livre de
Job.
Nous nous sommes attachés à voir l'environnement de la vie de ce personnage. Tâchez de comprendre qui il était, aussi son caractère. Nous avons vu que c'était un homme très riche, mais aussi très attaché à la justice. Il a cherché à aider les autres. Il vivait dans une époque très ancienne, dans une époque où il n'y avait aucun lien avec Israël, à l'époque des
patriarches,
probablement même avant Abraham. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans le livre lui-même. Nous regardons maintenant le résumé du livre et comment il est structuré. Il y a 42 chapitres, donc c'est un grand livre. Dans les chapitres 1 à 2 au verset 10, nous voyons une introduction. La situation de Job, sa richesse et sa famille. Ensuite, nous voyons une scène ouverte du ciel où l'on voit Satan parler à Dieu. Une discussion que Dieu fait avec Satan. Dieu permet la mise à l'épreuve de Job. Dans un premier temps, Satan va s'attaquer à sa famille et à ses biens. Il avait 10 enfants qui vont mourir dans une catastrophe de tempête. Et ces milliers de bétail, de troupeaux vont être volés. Tout ça en très peu de temps. Parce que Satan avait mis Dieu au défi. Dieu lui avait dit, regarde Job comme il est droit et intègre et honnête. Et Satan avait répondu, oui, mais tu lui donnes beaucoup de protection. Beaucoup de bénédictions. Enlève la protection et tu verras qu'il va se retourner contre toi. Dieu permet cette action de Satan et retire la protection. Il dit seulement ne touche pas à lui. Dans un premier temps, alors Job, il perd tout. Alors, on voit de nouveau une scène du ciel. Dieu dit à Satan, tu vois, il ne m'a pas renié. Et Satan va encore plus loin, il dit, mais touche à lui par une grave maladie et tu verras s'il ne va pas te renier. Dieu permet que Satan lui donne une grave maladie. Mais Dieu dit, ne touche pas à sa vie. Il ne permet pas que Satan le fasse mourir. Et dans cette deuxième épreuve, Job, il reste droit et fidèle. Ça, c'est dans l'introduction. Nous allons lire maintenant un passage. Le chapitre 1er, verset 6 à 12.
Vincent de Moabel. Foi na
casa. Tá, pourquoi je l'ai vraiment bien.
Tá, j'ai cru.
Mundo wa kachipo, mbuna baba oza. Nina janiyogo. Wakati mundo wa mushima mutoke, ni wa marumakane. Wakati manzani. Wakeupuka kumaru madi. Baka mulelela bana babalume, mwanda mutekete, ne bana bakashi, basati. Jumuna biyami, ya kaji mipoko, jumuna mwanda mutekete, netumelo, jumuna mbisati. Mwamba ibibibibibi, kubiko keji, kamaitani. Bakashi, banyama ya mpunda, kamaitani. Wakati ne bantu, babumi, mungu mwangu, kabichi. Mungu mtu eu, wakati kabantu bonso, bakumi seke, waese kebunene. Bana bandi, bakoli meba akadine, chile lecha kula nishidana na, ya kuja mungu uyabu. Mungu ne mungu, zitu kujangu. Bakati, batumajiri, wakuli hila, bana babakati, wakuja nabo, ama nabo. Bakatika, maso kwa kuja vija, kuli mungu, ne mungu, mungu, yobo wakati, ubadikila, kujie, ubashikila, wakadika, nijinda donso, wakati la milangu ya posa, bumu wakati mungu wa donso. Walu wako, yobo, wakambane, bumu banda bani, bapalume, bako yenda mali madi, bako penda nzambi, mumichima yago. Yobo wakati wenda mungu, nisamu yonso. Jitu kujuku wako, babali sanisha bana bali mebanzani, kumesu kwa yekoa. Satana kabiji, wakamu eneka munga shumawa. Yekoa, kakonka satani, kujuku makujukuni, satana, wakukujumuna yekoa jine. Jinku makabuloba, na kabinta ambakana, nenda kana yeku na yeku. Yekoa, kakonka satani. Wako mwana mtu wani yoko ani, kako ina mtu mkwa wajie kwa mloga. Mungu jie mtu, wa mchima, mtu uke, wa maru nakani. Uduchi manzani, ni ujue uka ku maru madi. Katana wakana mna iyo kwa, wako mkwa kani. Yoko uduchi manzani, patupu ani, yoko kwa kumungu mluka, mungu wangu, mungu wangu, mungu wangu, gulami kwele ani, wewe, wako kutishida mjimu wa jande yani, jisanka, mjimu na jande, ya kukulana, wabulote. Kajinti ndiyo, olo la chambu chelo, lenga jinti vyonso mjie nari, mjie na kudu ule, kumeshwe, mungu yeko wa kandila satana, mwana, jinti vyonso mjie nari, mjimu ya nari, kajinti,
Ça, c'est que dire. Merci. Alors, nous voyons une scène rare. C'est quelque chose qui se passe au ciel. Il y a comme les anges qui sont rassemblés devant Dieu. Et parmi les anges, il y a Satan. Comme je l'ai dit avant, il y a cette épreuve qui se prépare pour Job. Dieu permet à Satan d'agir jusqu'à une certaine mesure. On peut se demander pourquoi il permet cela. Dieu ne se plaît pas simplement à montrer à Satan qu'il a raison. Mais il a un but aussi de bénédiction pour Job. Alors, peu de temps après, Satan se dépêche. Nous le voyons agir très rapidement pour détruire tous les biens de Job. Ses troupeaux vont être volés par des bandes de pillards. Et ses enfants qui faisaient une fête dans une de leurs maisons vont subir une tempête. Les murs de la maison ne vont pas tenir. Ils vont s'écrouler sur les 10 enfants. Ils vont tous mourir d'un coup. Maintenant, nous lisons encore les versets 20 à
22.
Nous voyons Job dans une situation de détresse terrible. Mais nous ne le voyons pas renier Dieu. Le chapitre suivant va nous montrer Job qui est encore attaqué dans sa santé. Il va avoir un ulcère terriblement douloureux. Mais il ne va pas maudire Dieu. Alors nous revenons à ce plan ici, ça c'est l'introduction. Après, il y a trois amis qui vont arriver d'assez loin, des connaissances de Job proches. Ils voient en arrivant la détresse de Job. Ils vont simplement arriver et se taire pendant plusieurs jours. Ils voient que Job est complètement en bas moralement, qu'il a même le désir de mourir comme il a tout perdu dans la douleur. Remarquons quand même que Dieu lui a laissé sa femme. C'est intéressant de voir que Dieu avait dit à Satan, tu ne touches pas à lui, à sa vie. Et cela signifie qu'il n'a pas touché à la vie de sa femme aussi. Mais sa femme n'est pas de bon conseil. Elle va même encourager Job à maudire Dieu. Mais Job ne va pas aller dans ce sens et rester droit devant Dieu. Puis pendant des dizaines de chapitres, donc jusqu'au chapitre 31, nous allons voir trois cycles de discours. C'est-à-dire, un premier ami va dire ce qu'il pense sur la situation. Job va répondre. Un deuxième ami va parler. Job va répondre. Le troisième, la même chose avec réponse de Job. Et cela va se répéter trois fois. Puis, il y a une dernière défense de Job, tentative de se justifier. Puis, il y a un quatrième ami qui est arrivé, peut-être un petit peu après, qui était aussi plus jeune et qui a laissé parler les autres. Il va faire quatre discours aux trois amis et à Job. Ce sont les chapitres 32 à 37.
Au chapitre 38, c'est Dieu qui...
Puis, au chapitre 38, c'est Dieu qui commence de parler.
Après
un long silence où Job attendait des réponses de Dieu. Mais il ne va pas répondre sous forme d'explication. Il va poser des questions à Job sous la forme d'un défi. Puis il y a la réaction de Job qui s'humilie. Et à la fin, il y a Dieu qui parle aux trois amis. Et enfin, dans la dernière partie du livre, la conclusion, c'est Job qui est restauré. Il retrouve sa richesse, même au double. Et il a de nouveau 10 enfants. Alors, on pourrait dire, puisqu'il reçoit tout au double, pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas 20 enfants? Et là, nous pouvons nous projeter dans la résurrection. Dans l'éternité, Job aura 20 enfants, puisqu'il y a les 10 premiers qui sont morts, ils ont la vie éternelle. C'est déjà une interprétation, mais nous pouvons le penser comme
ça.
Et comme il a vécu
210
ans, on peut penser que son épreuve a eu lieu à
70
ans. Et qu'il a reçu encore le double d'années après.
C'est-à-dire
140
ans.
Maintenant, nous voyons une structure spéciale dans ce livre. J'ai dit un mot de ce qu'on appelle un chiasme. C'est quelque chose qu'on trouve dans la façon de voir des yeux reliés au cerveau. Il y a une symétrie inversée avec le nerf optique qui permet de voir la profondeur. Et de la même manière, c'est une figure que l'on trouve dans la littérature. Et cette structure, on la trouve dans plusieurs livres bibliques. On peut imaginer qu'aussi Dieu permet ainsi de nous faire comprendre les choses en profondeur. Voilà la structure en chiasme du livre. Au début, il a une grande prospérité. Puis, il y a les attaques de Satan. Puis, il y a les trois amis qui viennent, mais qui lui font des reproches. Ils lui disent, si tu as tous ces malheurs, c'est parce que tu as sûrement fait des péchés. Après, il y a la symétrie et le changement. Le quatrième ami, au contraire, va éclairer les choses de manière plus juste. C'est une symétrie inversée par rapport aux trois amis qui se trompent. Puis il y a Dieu qui va se révéler et parler à Job. C'est une symétrie inversée par rapport à Satan qui a attaqué Job. Et à la fin, il y a de nouveau la prospérité. Symétrie inversée par rapport à la prospérité du début. Mais cette fois avec la paix. Alors qu'au début, dans sa prospérité, il y avait une certaine crainte. Maintenant, nous allons chercher les thèmes principaux de ce livre. C'est étonnant dans ce livre qui n'avait pas la loi. Naturellement, pas non plus les évangiles et les épîtres. Mais nous avons déjà le thème du salut et de l'affranchissement. Et il y a le thème central de l'épreuve qui parle à tous les croyants de tous les âges. Il y a peut-être aussi des situations chez nous que nous vivons ou que nous avons
vécues
sans que cela ait été si grave comme Job. Mais où nous avons l'impression nous avons renoncé à vivre la vie du monde pour vivre une vie chrétienne. Mais il nous arrive quand même des problèmes et quand même des épreuves qui nous pèsent. Alors trois sujets principaux: le thème de la justification, comment est-ce que nous pouvons être justes devant Dieu, le thème de la souffrance, pourquoi est-ce que le croyant des fois il doit aussi beaucoup souffrir, et le thème de l'affranchissement, c'est-à-dire vivre une vie absence de loi et de règles pour plaire à Dieu. Où l'on ne vit pas sous une contrainte de choses à suivre avec obligation, mais une liberté de suivre Dieu volontairement. Alors on va prendre ces trois thèmes l'un après l'autre. La question de base de ce livre est liée à la justification. Est-ce qu'un homme juste et intègre dans son chemin, dans ses voies, est-ce qu'il peut posséder lui-même la justice et se tenir devant Dieu? Et séparer même si le mal est proche. Et là nous voyons une erreur fondamentale qu'a fait Job. Il s'est donné beaucoup de la peine pour faire tout juste. Et il était convaincu d'être vraiment juste. On va pas le lire, mais je le dis comme ça, chapitre 26, verset
6.
Je tiendrai ferme ma justice, je n'en ferai pas abandon. Mon cœur ne me reproche aucun de mes jours.
Donc
il avait tellement fait, cherché à faire le bien toute sa vie. Il n'a pas de souvenir de n'avoir pas été juste un jour. Et il est rempli de cette intégrité propre. C'est comme un grand vêtement de cette propre justice qui lui cache Dieu. Et même il se cache à lui-même. Alors dans cette épreuve, il se tourne vers Dieu. Il compte sur lui, mais il ne le trouve pas. Alors, c'est ça que l'on doit tous comprendre comme croyants. Il faut passer d'un changement entre la religion du moi centré sur moi à la justice qui vient de Dieu. S'il y avait un homme dans l'histoire qui pouvait être justifié par ses bonnes œuvres, C'était peut-être Job plus que tous les autres. Mais ce livre nous montre que même le plus juste des hommes, il ne peut pas être justifié par lui-même. Ça ne suffit pas pour être agréé de Dieu. Et là, nous avons plus de 2000 ans avant l'évangile. L'essence même de cet évangile. Qui rend la foi chrétienne à l'opposé de toutes les religions du monde. Alors là, il y a ces deux phases intéressantes. Si Dieu est notre juge, on ne peut être sauvé. Personne ne va être assez juste pour être sauvé. Par contre, si Dieu nous justifie de lui-même, de sa part, alors on ne peut pas perdre ce salut. Mais seul Dieu peut justifier l'homme. L'homme doit le reconnaître, sinon il n'y a pas de salut. La justification, elle doit être faite par Dieu. Et lorsqu'on réalise qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes, lorsqu'on réalise que l'on n'est rien, que l'on regarde à Dieu et qu'on s'attend à lui avec foi, alors Dieu peut justifier. Job n'avait ni la loi quand il est juif, ni l'évangile que nous avons, mais Dieu l'a amené au salut. Ça nous parle aussi que Dieu peut amener au salut aussi tous ceux qui n'ont jamais entendu de messages et qui peuvent être justifiés de la même manière. Premièrement, en reconnaissant l'existence de Dieu et sa grandeur en voyant la création. On voit ça dans le premier chapitre de l'Épître
aux
Romains. Deuxièmement, reconnaître que l'on n'est rien, se repentir de ses fautes. Et troisièmement, croire que Dieu seul et pas nos bonnes œuvres, il peut nous sauver.
Et
il a un moyen pour le faire. Deuxième thème principal, la souffrance, qui a beaucoup de place dans ce livre. C'est un des exemples les plus connus d'une souffrance qui n'est pas méritée. Qui ne vient pas suite à de mauvaises actions. En un seul jour, il a eu plus de catastrophes dans sa vie que probablement n'importe qui à part le Seigneur. Que probablement n'importe qui, n'importe quel homme, sauf le Seigneur. Il dit au chapitre 30, mon état de sûreté est passé comme une nuée.
Au chapitre 30, mon état de sûreté est passé comme une nuée.
Il était dans un état de sécurité avec beaucoup de richesses, avec une belle famille, et tout ça est passé comme un nuage avec le vent. Il a perdu tous ses biens matériels. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Il n'avait plus le soutien de sa femme. Ses meilleurs amis, ils vont le culpabiliser au lieu de le consoler. Et tous les méprisés du monde qui étaient avant probablement jaloux, maintenant ils lui crachent dessus et le
bousculent.
Et pour terminer, Dieu ne répond pas. Donc il y a des souffrances financières, émotionnelles, physiques.
kujinta tu ya jipanga jakanto alubere malo ajatulile mulungenye malo tidumune ni mesu ni malo munyuma
aussi spirituel on voit qu'il fait aussi des cauchemars terribles
tidumuna mu malo munyuma yogo umune bilote lote bibi
mais c'est remarquable il faut voir que malgré ce désespoir et ces déceptions Job réaffirme régulièrement la grandeur de Dieu
na chimuchiko moyo mu yogo yai kushajika jiko ashejanzana.
Il y a beaucoup de croyants qui peuvent s'identifier à Job dans des épreuves. Pourquoi est-ce qu'on subit des épreuves et des tragédies? C'est parfois dur à comprendre, ça nous laisse perplexes. Surtout si ça frappe ceux qui ne paraissent pas du tout le mériter. Et pourtant, et ça c'est très important, cette souffrance est un terrain de croissance spirituelle. Alors quelle attitude allons-nous avoir devant Dieu? Cela peut faire partie des voies de Dieu pour sonder nos cœurs. Et de nous révéler le véritable état profond devant lui que nous avons. Dans les Proverbes chapitre 17, il est dit le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or. C'est là que l'on chauffe à de très hautes températures pour faire sortir l'argent et l'or. Et de la même manière, l'Éternel utilise la souffrance pour éprouver les cœurs. Avec le but de refaire sortir de l'argent et de l'or pour lui. Et ça nous montre que dans les épreuves, Dieu peut viser un autre but que de punir le péché. On voit très bien que dans le cas de Job, il ne s'agissait pas de péché à punir. Mais Dieu avait en vue de développer son discernement spirituel et le rapprocher de
lui.
C'est un enseignement aussi pour notre attitude dans la souffrance. Avec ce modèle de Job, il ne faut pas abandonner notre confiance en Dieu. On peut très bien le prier pour qu'il nous donne des réponses. Mais c'est important que si on ne comprend pas pourquoi cela nous arrive, il ne faut pas devenir amer et développer quelque chose, un sentiment contre Dieu. Parce que même si on ne le comprend pas sur le moment, il désire une bénédiction pour nous. On peut demander à Dieu pourquoi nous souffrons. Mais nous ne pouvons pas exiger que Dieu réponde tout de suite et d'une certaine façon. Sinon, c'est comme si nous nous placerions au-dessus de Dieu. Et que nous voulons contester sa souveraineté. Devant tant de souffrances, il y avait le risque que Job commence à dire du mal de Dieu.
Mais
il ne l'a pas fait contrairement à ce que Satan avait dit. Et Dieu a démontré que ce que disait Satan était faux. Job ne servait pas Dieu seulement pour les avantages matériels. Et même lui, au plus fort de la souffrance, il y avait quand même des rayons de lumière et une certaine clarté. Là, nous voyons un tableau qui nous parle de l'évolution de la souffrance de Job.
tableau du tuléja muya yobu umbu luendu lwa dikenga janji.
On va essayer de comprendre de nouveau cette espèce de structure en chiasme. Avec une symétrie inversée. Avant les preuves, ça c'est avant que viennent les problèmes. De la prospérité avec un peu de crainte de malheur parce que deuxièmement Satan il agit, il perd ses biens et ses enfants. Troisièmement, sa femme ne le conseille pas bien.
Elle
le pousse même à maudire Dieu. Troisième épreuve, ses amis l'accusent de faute grave. Nous arrivons au centre de la symétrie. Arrive le quatrième ami, Eliu. Alors il va défendre un peu Job d'une certaine façon, tout en lui montrant le problème qu'il en veut à Dieu d'une certaine façon. Ensuite, donc ceci c'est en symétrie par rapport aux trois amis. Ensuite, Dieu va se révéler en montrant sa grandeur, sa gloire, en utilisant des exemples de la création, notamment des animaux. Donc, cette action de Dieu est en parallèle symétrique avec l'action de Satan. Et Job lui-même va reconnaître qu'il n'est rien. Et puis il y aura après l'épreuve la restauration. Il retrouve famille et richesse. Mais cette fois avec une certaine paix et une certaine sérénité. Il a fait une grande progression spirituelle après cette épreuve. Alors on peut appliquer ça pour nos vies. Qu'est-ce que ça signifie? Il est possible que nous avons une certaine routine de chrétien qui vit sa vie avec plus ou moins de bien-être et plus ou moins de problèmes. Tout à coup les problèmes peuvent venir plus graves. Peut-être une maladie. Peut-être le travail qui ne va plus. Peut-être des difficultés dans le couple avec les enfants. Ou bien des problèmes avec les biens matériels. Peut-être comme Job aussi, on regrette qu'on n'a pas tout le soutien qu'on attend dans la famille. Peut-être aussi qu'on n'a pas tout le conseil qu'on aurait voulu recevoir de la part des amis. Il peut même y avoir un peu de déception dans l'assemblée locale, peut-être. Et là, on arrive à cette symétrie de l'épreuve. Dieu peut permettre aussi, comme dans le cas de Job avec Eliu, qu'il y a un frère ou une sœur qui nous comprend et qui nous aide. En avançant de l'épreuve, on comprend que Dieu désire se révéler davantage à nous dans sa grandeur. Nous pouvons aussi comprendre que dans l'épreuve, nous comprenons vraiment que nous sommes rien du tout et nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Que Dieu nous montre que nous avons l'incapacité à nous en sortir par nous-mêmes. Et à la fin, nous sommes plus proches de Dieu et nos regards sont davantage fixés vers le ciel.
Mais c'est...
Naturellement, nous ne souhaitons jamais une épreuve. Mais si Dieu permet qu'elle arrive, que nous puissions prendre exemple de ce livre et de la façon dont Dieu a agi avec Job. Troisième thème principal, l'affranchissement ou le fait d'être libéré en Christ. Lisons un verset dans Romains 8, le verset 2.
Il y a une ville moukano, l'homme chapitre moins de moukou, verset moubi dit, tout bas de bien verset à tombe moubi. L'homme moins de moukou, verset moubi dit.
Donc là, nous voyons que la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus, à nous qui sommes chrétiens, ça, cela nous affranchit de la loi du péché. Qu'il y a dans la vieille nature qui produit la mort. Mais cette nouvelle vie en Christ va nous libérer de cette loi du péché. Alors Job, il n'avait pas connaissance de l'évangile des épîtres, on l'a déjà dit. Naturellement, Christ n'était pas encore venu. Mais Dieu va produire un travail en lui en rapport avec la mort à soi-même. Alors, il ne comprend pas vraiment le sens au milieu de l'épreuve. Il va commettre une autre erreur fondamentale. Il va dire, il ne sert à rien de servir Dieu. Et même, il va même plus loin, il a l'impression que Dieu le considère presque comme un ennemi. On voit ça au chapitre 33. Parce qu'il voit toutes ces épreuves qui arrivent contre lui, il se dit, mais pourquoi Dieu me considère comme ça? Mais Dieu a permis cette épreuve avec un but précis. Il aimerait qu'il comprenne qu'il n'y a rien de bon en lui. C'est une leçon difficile à apprendre aussi pour nous. Et c'est probablement plus difficile pour quelqu'un qui a grandi dans une ambiance chrétienne ou de fidélité à Dieu. Que les personnes qui ont fait beaucoup de mal et après qui se convertissent. Eux, ils comprennent qu'ils ont fait beaucoup de mal et qu'ils ont changé complètement de vie. Mais lorsqu'on grandit dans une famille chrétienne, on cherche depuis tout petit à faire le bien et éviter le mal. Alors en grandissant, on n'aura probablement pas la même conviction de péché. Et Dieu peut avoir à faire aussi un travail en nous pour que l'on saisisse que même si on ne fait pas de grave mal, il faut qu'on réalise aussi que nous ne sommes pas bons au fond de nous-mêmes. C'était aussi une leçon difficile à apprendre pour l'apôtre Paul. Il était un juif qui voulait accomplir la loi le mieux possible. Et en persécutant les chrétiens, il pensait faire bien. Il a dû apprendre aussi que c'était complètement faux. Et ensuite, Dieu l'a beaucoup utilisé. D'une manière générale, nous sommes tous fils d'Adam. Et nous avons tous cette vieille nature qui ne peut pas être juste devant Dieu. Si on veut faire des efforts pour améliorer la vieille nature, on ne fait que combattre Dieu. Il n'y a que le sang de Christ qui peut vraiment nous justifier. Et pour Job, il fallait renoncer à sa confiance en lui. Renoncer à sa propre valeur, à sa propre justice. Et au cours de l'épreuve, le centre de son attention va se déplacer de lui-même vers Dieu. Et ça, c'est une leçon difficile à apprendre quand on est convaincu de bien servir Dieu. C'est aussi une leçon difficile à apprendre, spécialement aujourd'hui, pour les croyants qui sont très légalistes, suivent des règles. Et il faudrait que nous apprenions tous d'une manière ou d'une autre la leçon de Job. On peut être pieux, c'est-à-dire avoir une vie de pratique chrétienne, sans avoir jamais appris à juger entièrement le moi et en l'appréciant comme Dieu l'apprécie. Et c'est parfois dans les profondes souffrances que nous devons apprendre cela. Job nous montre que tout croyant doit réaliser qu'il ne peut pas compter sur ses efforts charnels pour
plaire
à Dieu. Aujourd'hui, même un chrétien converti ne peut pas peut s'imposer des lois, faire un catalogue de règles. Il va les observer en pensant qu'il plaît à Dieu. Il y a le risque qu'il va juger ceux qui n'observent pas les mêmes règles que lui. Mais on ne peut pas être agréé par Dieu si on se concentre sur soi-même, pour trouver une satisfaction dans ce que nous sommes. Il est nécessaire d'être affranchi de ce légalisme pour devenir un chrétien libre en Christ, pour que la chair soit crucifiée et pour mourir au vieil homme. C'est ce que nous voyons dans les chapitres 6, 7, 8 de l'Épître aux Romains.
Ah, bon, le bout du monde, le chapitre, le sambon, bon, vingt, son mandat, monte, que c'est ton nom, le moulo.
Alors, ces trois thèmes principaux du livre de Job sont liés.
Bien, le bout du monde, ça, tu es dit, mon gandoyo, le bout du monde, c'est kakaja.
Dieu a permis la souffrance.
Zambi, ou du wanisham, ça tout.
Ce qui a amené Job à ne plus se justifier en étant concentré sur lui-même. Pour être affranchi de son moi. Fixer les yeux davantage sur Dieu et avoir son attente en lui. Un autre chapitre maintenant, très
différent.
Nous savons que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas directement de notre Seigneur Jésus. Mais nous savons qu'il est quand même présent d'une manière souvent assez cachée. Non seulement il y a les prophètes qui annoncent la venue du Messie, mais nous savons qu'il y a aussi, par exemple, les psaumes qui parlent de lui. Et le Seigneur n'est pas absent du livre de Job. Et dans certains versets, c'est intéressant de voir que nous pouvons discerner Christ lui-même.
Il m'a inventé, il dit sous les bois, tu écoutes ta poule là, tu touches, tu écoutes sur le vangayan.
Lisons le chapitre 19, versets 25 et 26.
Tu vas là, et puis, chapitre 19, verset 25 et 26. Tu vas là, et puis, chapitre 19, verset 25 et 26. Tu vas là, et puis, chapitre 19, verset 25 et
26.
Amen. Ce verset est assez extraordinaire. Job sent le besoin de quelqu'un qui va acheter un rédempteur. Quelqu'un qui sera glorieux et le dernier roi de la terre. Et cette expression, il se lèvera de la poussière, nous parle de résurrection.
En chapitre
33, on voit qu'il cherche un messager, un interprète. Quelqu'un qui est propice, qui parle pour lui. Nous savons que le Seigneur Jésus a aussi agi de cette manière pour nous. Au chapitre 16, il cherche un témoin comme un avocat auprès de Dieu. Au chapitre 9, il aimerait un arbitre, un médiateur. Pour être en quelque sorte entre Dieu et l'homme. Chapitre
9,
verset
33.
Ça, c'est pour l'arbitre ou médiateur. Pour le témoin comme avocat, c'était chapitre 16, versets 19 à 21.
Bon, témoin, chapitre 16,
pour le messager, celui qui est propice, c'était chapitre 33,
versets 23 à 24.
Et encore avec l'idée d'avocat, nous avons chapitre 23, verset
7.
Et aussi donc 31, verset
35. Ah, j'ai déjà.
Les questions cruciales que Job se pose au sujet de la vie et de la mort, de la souffrance, etc.
Elles
ont toutes trouvé leur réponse dans la personne du Seigneur comme médiateur que Job il espérait rencontrer. Maintenant, on va passer pas trop de temps, mais on va quand même regarder. C'est un peu plus délicat et plus difficile. Certains commentateurs du livre de Job ont étudié dans les prophéties la situation du résidu, du reste juif après l'enlèvement de l'église. Il y a ce temps de tribulation où Dieu va reprendre ses relations avec les juifs
croyants.
Et dans les prophéties et dans l'Apocalypse, on voit différents détails de ce qui va se passer. Et ils ont fait des parallèles avec ce qui est arrivé à Job. Dans les cinq points que nous voyons à gauche, il y a la prospérité de Job. En parallèle à droite avec un reste fidèle qui est béni. Et au point 2, on voit Job qui fait des sacrifices pour sa famille. En parallèle, ce reste fidèle des Juifs va recommencer les sacrifices. Les sacrifices dans le troisième temple qui va être reconstruit. Au point 3, on voit que Job a eu d'intenses souffrances. Ce reste juif va avoir de très grandes persécutions. Au point 4, il y a deux bêtes extraordinaires. Des animaux que Dieu décrit à Job. Dans Apocalypse 13, on voit aussi deux bêtes qui montent de la terre et de la mer.
Ah,
qui parle de personnages puissants. Au point 5, il y aura ensuite la justice de Job qui est mise en question. Est-ce que Dieu a donné une punition à Job? De même, ces juifs fidèles vont se poser la question, est-ce que Dieu est en train de nous punir? Ensuite, un point 6, Dieu qui se révèle à Job dans la tourmente. Pour le résidu juif, à la fin, le Fils de Dieu lui-même va descendre sur la terre. Au point 7, on voit Job qui se repent. Et quand ces croyants juifs réaliseront que, en fait, c'était Jésus-Christ, le vrai Messie qu'ils ont mis à
mort.
On voit dans Zacharie 12 qu'il va se repentir. Et au point 8, on voit que Dieu rétablit l'ancien état de Job. Et pour le peuple juif, Dieu va inverser cette situation. Au point 9, Job reçoit une double bénédiction. Dans Esaïe 61, versets 6 et 7, on voit aussi que le récit du juif va recevoir une double bénédiction. Au point 10, on voit Job qui est consolé.
Et
avec le règne de 1000 ans du Seigneur, Israël sera aussi consolé par tous. Quelques autres thèmes et enseignements pour nos vies. Sans trop approfondir, on va en considérer quatre. La manière d'agir de Satan. Nous allons voir qu'il y a différentes sortes d'amis. Et on va voir la réponse de Dieu. Et aussi la fin du Seigneur. De l'essence du but ultime de Dieu envers Job et envers nous. Alors Satan, nous le voyons qui observe Job comme il nous observe nous. Il a comme soif de nous faire du mal, comme un lion qui rôde. Comme à la création, il a agi très rapidement pour faire chuter Ève et Adam.
Adam et Ève.
Dès que Dieu le laisse libre d'agir contre Job, tout de suite il agit au maximum de mal qu'il peut faire. Nous devons toujours être vigilants car il ne va pas attendre et perdre une occasion pour nous faire du mal. Nous voyons qu'il a un certain pouvoir sur les éléments naturels comme la foudre et la tempête. Qui ne veut pas dire que chaque tempête vient de Satan, naturellement. Il a le pouvoir de frapper par la maladie. Naturellement, de nouveau, chaque maladie ne vient pas de Satan. Il a aussi le pouvoir d'influencer les hommes. Nous voyons qu'il pousse des troupes de Sheba, des Chaldéens pour attaquer les troupeaux tous en même temps. Il peut même influencer nos proches dans leurs pensées pour peut-être nous donner de mauvais conseils comme la femme de Job. Et il va nous pousser à en vouloir à Dieu dans les circonstances difficiles. On voit que ses trois amis le culpabilisent aussi, le poussent à s'introspecter. Maintenant, on voit aussi que Eliphaz lui dit que c'est un hypocrite. Il lui fait penser que Dieu est contre lui. En réalité, Satan fait une fausse application de la vérité. Ça arrive souvent.
Satan, comme
il a tenté le Seigneur en utilisant la parole de Dieu de mauvaise façon. Il est vrai que ceux qui font du mal, ils auront des conséquences négatives. Mais il est faux que Job était un hypocrite, ce n'était pas juste. Judas était un hypocrite, mais pas Pierre. Donc Satan peut produire un état de confusion en nous, en nous disant tes péchés, ils méritent punition.
Il
faut faire attention de ne pas le suivre dans cette voie. Il faut aussi savoir que dès le moment où Dieu dit stop à Satan, il disparaît.
Satan,
il n'est pas tout puissant. On ne le voit plus du tout agir dès que Eliu l'a mis juste à rire. Et on réalise alors que si Dieu a permis qu'il agisse quelque temps, c'est qu'il avait un but secret, pas visible au début, mais positif pour. Alors maintenant, il y a différents types d'amis. On voit que ces trois amis, ils arrivent de loin. Ce sont des personnages qui ont l'air assez importants. Il y a une vraie affection envers Job. On voit qu'il y a un certain respect, ils vont parler dans l'ordre du plus âgé au plus jeune. Eliphaz, il se base sur l'expérience qu'il a de la vie. Bildad va se baser sur l'enseignement du passé, sur la tradition. Sophar, c'est le plus jeune, il a beaucoup d'énergie, mais il a des attitudes légalistes. Les trois, ils croient en Dieu, ils sont pieux, mais ils n'ont pas un bon discernement. Ils accusent Job, ils le culpabilisent et ils le font chuter dans ses paroles. Avant, Job avait honoré Dieu et petit à petit, il voit Dieu comme un ennemi. Dans les discours, ces trois cycles de discours, on voit une progression.
Mumayiki a satutitumuna ditlonda hana jamal.
Au début, il parle un petit peu avec des sous-entendus. Et après, ils insistent toujours de manière plus dure et directe que la souffrance est la conséquence, une punition que
Job a.
En réalité, ils n'ont fait que creuser dans la nature non brisée de Job. Et ces trois amis n'obtiennent pas de bons résultats. Job se défend et il est blessé dans son amour propre. Et ils se font des reproches mutuels. À la fin, on voit que Dieu lui-même fait un reproche à ses trois amis. Et il doit offrir un sacrifice. Et même Job doit prier pour eux. Job avait probablement développé un ressentiment contre ses amis. Mais Dieu désire une réconciliation. Alors Job doit prier pour eux. Alors un autre ami, c'est
Eliud.
Lui, c'est le plus jeune. Pardon. Il attend patiemment son tour. Il se place au même niveau que Job. Il ne cherche pas la controverse. Mais il a une certaine autorité morale avec la pensée de Dieu. Il agit d'une certaine façon comme l'arbitre ou l'interprète qu'attendait
Job.
Mais il va se mettre en colère pour deux raisons. Job se justifie plutôt que Dieu. Il a sa propre justice, il a compris ça. Et ces soi-disant amis consolateurs, au fait, ils ne font que le condamner. Ils parlent avec vérité, sans vouloir accabler, mais ils veulent justifier Dieu.
Ils
montrent la discipline de Dieu à l'écart de l'homme et du juste. Maintenant, nous pouvons nous demander quelle sorte d'amis nous sommes. Dans des circonstances où l'on voit peut-être les autres souffrir. Et là, nous pouvons aussi chercher à voir comment agir quand mon frère ou ma soeur a une épreuve.
Peut-être
que quelqu'un a une routine, un bien-être relatif. Puis il a des problèmes santé, travail, famille. Si je suis dans sa famille, est-ce que je vais le soutenir? Si je suis dans ses amis, est-ce que je vais essayer de bien le conseiller ou mal? Est-ce que je vais l'aider à comprendre ce que Dieu fait pour lui? Est-ce que je vais contribuer à ce que l'épreuve dans laquelle il est va porter du fruit de renoncement à soi-même? Est-ce que je vais l'accompagner pour qu'il ait ses regards davantage fixés pour Dieu? C'est des questions pour nous tous parce que ce n'est pas toujours facile d'aider nos amis. Alors on arrive vers la fin. La réponse de Dieu. Dieu ne fait pas un compliqué exposé théologique. Il lui montre la grandeur de la création. Il va décrire des animaux. Montrer tout ce qu'il a fait lui, Dieu. Et où est-ce qu'il était Dieu quand il a fondé la
terre?
Ça, ça va le remettre à sa place. Lui qui avait dit au chapitre 31, verset 37, je viendrai devant Dieu comme un prince. Après lui avoir montré différents aspects de la création, Job devient plus humble déjà. Mais il ne s'est pas encore repenti vraiment. Alors Dieu va lui montrer deux animaux les plus impressionnants que connaissait Job. Le béhémoth et le léviathan.
On ne
sait pas bien qu'est-ce que c'était ces animaux. Certains se sont demandé si c'était l'hippopotame ou le crocodile. Mais plusieurs aspects de la description ne correspondent pas. Donc, il est possible que ce soit des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Mais Dieu veut lui faire montrer que si devant ces animaux monstrueux, Job peut avoir de la crainte, alors encore plus devant le créateur de ces animaux. Il y avait à l'époque des monstres marins qui étaient dangereux puisqu'il fallait même établir des sentinelles. Lors de tempêtes sur la mer, ces animaux étaient parfois fracassés par la puissance des vagues. Donc Dieu va lui montrer qu'il était encore plus puissant que ces animaux dans la nature qu'il a créée. Dieu va montrer que l'homme est bien petit en face de la puissance du Créateur. Donc Job va comprendre qu'il ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu, son orgueil, et il se
repent.
Je dis en passant que c'est assez intéressant si on regarde la description de ces animaux. Plusieurs spécialistes, biologistes ou zoologues chrétiens pensent que cela pouvait s'agir de sortes de dinosaures qui étaient encore en vie à l'époque. Et Job ayant vécu peu de temps après le déluge, peut-être qu'il y avait encore quelques-uns de ces animaux énormes et puissants qui se sont éteints par la suite. Alors, concernant la réponse de Dieu, Dieu n'a pas répondu vraiment à Job, mais il a retourné la situation en lui posant des questions. Il faut toujours réaliser que Dieu n'a pas de compte à rendre. Dieu ne donne pas toujours des explications pour notre compréhension. Mais en regardant à Dieu, à Christ, cela nous suffit. Sa présence est la meilleure des réponses avant qu'un jour on sait toutes
choses.
La connaissance de soi-même devant Dieu est de toute importance. Sans elle, nous ne sommes jamais humbles. Ni défiant de nous-mêmes. C'est une parole intéressante de John Darby. Maintenant, pour terminer, on arrive à la fin du Seigneur dont parle Jacques. Le but de Dieu, c'est que Job se connaisse lui-même. Il n'aurait pas pu le faire autrement. La présence de Dieu dans le tourbillon fait qu'il a horreur de lui-même, se repent.
mumabwala aja sakanzi yobo bwani yobo akujimu ne muchima wanje
se repond de sa propre justice
akujimu ne muchima wanje mu jijibinshe mu bujiga bajagikala mwaka ne muyeyenga yani.
Donc l'épreuve dans ce livre n'est pas en rapport avec des péchés commis. Mais afin que l'on apprenne ce que nous sommes, devant Dieu.
Par
la discipline, il veut nous rendre participants de sa sainteté. Job a changé, il a appris à connaître Dieu et il a une plus grande communion avec lui. Il a eu besoin de patience, mais à la fin, il y a ce magnifique verset 40, du chapitre
42,
verset
5.
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
Dieu
voulait aussi faire ressortir sa suprématie sur le mal et Satan.
Ses
buts sont atteints, il peut de nouveau bénir Job. Nous avons déjà dit qu'il y a réconciliation, il reçoit le double d'avant. Voilà la conclusion. Ce livre est la révélation des voies de Dieu envers les âmes. Il nous montre comment Dieu fait concourir toutes choses au bien des siens. Tout en manifestant la victoire sur Satan et les manquements des hommes et des saints. À la fin, Dieu montre ce qu'il est, à savoir un Dieu plein de grâce et de miséricorde et de tant de compassion.
C'est
William Kelly qui a fait cette citation.
Ah, moi, c'est William Kelly, moi, c'est comme nous.
Toi, c'est qui dit là.
Merci, Aïe.